Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
L'armée congolaise condamne les propos des dirigeants de la coalition RDF AFC M23 tenus jeudi à Goma, sur notamment les prétendues persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Les FARDC estiment que cette coalition poursuit sa logique de désinformation, cherchant notamment à diviser la population congolaise. Examen d'État 2026, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Nous serons pour cela à Djougou, où plus de 50% des candidats étaient absents hier à Fata qui centre à cause de l'insécurité. À Bandundu-Ville, où une candidate est décédée hier, mais aussi à Walikale, où des finalistes ont été dépouillés de leurs biens en route. Nous irons également à Mbushima et Beni. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'oppose à toute modification des textes fondamentaux qualifiant du projet de référendum des préludes à la balkanisation du pays. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont débattu autour de cette position. Vous les suivez dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce journal avec cette réaction des forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC condamnent avec la plus grande fermeté, je cite, les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuses tenues par les dirigeants de la coalition RDF AFC M23 lors de leur conférence de presse tenue à Goma jeudi dernier le 18 juin. Dans ces déclarations, cette coalition a notamment qualifié des responsables des va-t-en-guerre du discours du président Félix Tshisekedi prononcé à Houston aux États-Unis. Dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Makazuka, il porte parole intérimaire des FARDC et dont une copie nous est parvenue hier lundi. L'armée relève que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et des désinformations régulières menées par la coalition RDF AFC M23 contre les institutions de la République. D'autres détails avec Richard Junior Kamunga.
Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état des prétendus massacres, exterminations et persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement, ajoute le communiqué. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits humains ont documenté des graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment des exécutions sommaires, des assassinats des civils, des enlèvements, des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacés forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec rigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et des appartenances linguistiques afin de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment à opposer artificiellement les populations congolaise vivant dans l'est du pays et à leurs compatriotes d'autres provinces de la République, dans le but d'affaiblir la cohésion nationale et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition.
Examen d'État 2026, c'est la deuxième journée aujourd'hui, mais en Ituri, la participation à ces épreuves est fortement affectée par l'insécurité dans le territoire de Djougou. Au centre de passation de Fataki Centre, par exemple, seuls 138 candidats sur les 263 finalistes attendus du pôle scolaire Djougou 1 ont répondu présent hier lundi, soit un taux d'absence de près de 50%. Selon l'inspecteur principal de cette juridiction scolaire, cette faible participation s'explique par des attaques récurrentes des groupes armés dans la région. Nous faisons le point avec Martial Kizabiamongo.
Parmi les 138 élèves finalistes de 6e année secondaire qui ont répondu présents ce lundi 22 juin au centre de passation de l'examen d'état de Fataki Centre, 78 sont des filles. Ces chiffres représentent à peine plus de la moitié des 233 candidats attendus dans cette juridiction scolaire. Selon Gilbert Bekondoza, inspecteur principal de l'enseignement primaire, secondaire et technique du pôle scolaire Djougou 1, la majorité des candidats absents ont fui les violences armées qui persistent dans la région. Il évoque notamment les affrontements entre les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP et les FARDC dans la zone déboulée. Gilbert Bekondoza.
Cette interdiction est due à ce qui s'est passé à Doulé. Depuis le 5 décembre, les enfants n'ont pas étudié à Doulé, n'ont pas présenté les examens.
Face à cette situation, plusieurs notables de la région plaident pour l'organisation d'une session de rattrapage en faveur des élèves qui n'ont pas pu prendre part aux épreuves. Il appelle également les nouveaux gouverneurs des provinces à rétablir rapidement l'autorité de l'État dans les zones touchées par l'insécurité pour permettre les retours des milliers de personnes déplacées dans leur village d'origine. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, au moins une trentaine d'élèves finalistes ont été victimes d'une attaque d'hommes armés, non autrement identifiés vendredi dernier sur l'axe routier Kisea Kilambo. C'est dans le groupement Bafuna, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale. Selon des sources locales, ces finalistes en provenance de Walikale centre et des villages environnants se rendaient à Toto et Biungo dans le groupement Waloa Uroba, où se situe leur centre de passation de l'examen d'État. Ces bandits les ont dépouillés de tous les biens de valeur et même les cahiers ont été ravis. Plus de détails avec Benjamin Moudoumbi.
D'après des sources locales, ces élèves finalistes et candidats aux épreuves de l'examen d'État devraient parcourir plus de 26 kilomètres à pied en pleine forêt pour atteindre les centres de passation de l'examen d'État situés à Ntoto et à Biungu dans le groupement Waloa Uroba. Interceptés par des bandits armés non autrement identifiés sur l'axe routier Kiseya Kilambo, non loin de Kimua, dans le groupement voisin de Waloa Yungu, ils ont été dépouillés de tous leurs biens, cahiers, téléphones, l'argent et autres biens de valeur à non source. C'est hors la loi aurait violé également trois parmi des filles avant d'être relâchées. Une information confirmée par l'un des responsables du secteur éducationnel Nord Kivu 3 qui affirmait que les victimes ont tout de même poursuivi leur chemin pour atteindre les centres de l'examen d'État. La même source ajoute que les épreuves ont effectivement débuté ce lundi dans les 60 centres relevant du secteur éducationnel Nord Kivu 3 qui compose les territoires des Massissi et Walikale avec un total de 18 273 candidats inscrits dont 7103 filles et 11170 garçons pour les deux territoires. Les victimes ont passé l'examen dans une condition de traumatisme, ajoute notre source scolaire. Les notables de Walikale continuent à déplorer l'insécurité persistante dans cette zone sous occupation de Wazalendo.
Et dans la ville de Béni, toujours au Nord Kivu, le service de prévention et de contrôle des infections de la division provinciale de la santé a installé des dispositifs de lavage de mains à l'entrée des centres d'examen, ce qui permet aux élèves finalistes de se désinfecter avant d'accéder aux salles d'examen. Selon des responsables de cette structure, cette mesure vise à protéger les candidats contre tout risque de contamination par le virus Ebola. L'un de ses responsables, Dr. Franck Fikiri, a fait le point de sa tournée dans des centres au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons vu des stations de lavage des mains disposées devant chaque salle. Et nous nous sommes rassurés que tous les élèves se sont bien lavés les mains avant d'accéder à leur place respective. Ensuite, nous sommes entrés dans des salles de classe. Nous avons constaté que la distanciation sociale entre les élèves en train de passer leurs épreuves est respectée. Donc, le 1 mètre de distanciation est respecté. Au regard donc du contexte actuel de l'épidémie en cours, pendant ces 4 jours, ce qui doit être respecté, c'est le lavage régulier des mains. Comme il y a des stations déjà prédispositionnées au devant de chaque classe, tout élève est censé se laver plusieurs fois les mains lorsqu'il est nécessaire de le faire. Lorsque vous entrez, lorsque vous sortez, lorsque vous quittez la toilette, lorsque vous constatez que vous êtes malsain au niveau des mains, il faut toujours laver. Et lorsque l'eau est disponible à tout moment, est devant la classe, donc nous demandons à tous les élèves de se laver régulièrement les mains chaque fois qu'ils ont manipulé quelque chose qu'ils estiment que c'est sale.
Note également que dans tous les centres de passation d'examen, des équipes de riposte et des volontaires sont présents avec des thermoflages pour prélever la température des élèves. La session ordinaire de l'examen d'État a aussi été officiellement lancée hier dans la province éducationnelle de Kwilu 1. La cérémonie officielle s'est déroulée à l'Institut Saint-Joseph situé dans la commune de Basoko à Bantundouville en présence du ministre provincial du Transport. Au total, 14 633 candidats prennent part à ces épreuves dont 6 850 filles et sont réparties dans 73 centres d'examen. D'autres détails avec Jean-Claude Tangamou, élément rendu par Sephora Mpaka.
Dans son allocution, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Kwilu 1, Hervé Mungeta, a appelé le chef de centre à veiller au strict respect des instructions et des dispositions réglementaires afin de garantir le bon déroulement des épreuves sur toute l'étendue de la province.
Au chef de centre et les différents chefs de centre, cet examen a des implications extrêmes. Nous appelons les uns et les autres à se dépasser. Évitez de traumatiser les candidats. Prenez tout le temps d'instruire au surveillant. C'est ceux qui tomberont dans des antivaleurs, comme nous avions pris le temps hier à l'ancien communiqué à travers toutes les plateformes d'éducation, nous n'hésiterons pas à prendre des décisions draconiennes.
Prenons la parole au nom du gouverneur de province, le ministre provincial de transport Bonaventure Kipalamoto a exhorté les candidats à aborder ces examens avec sérénité, discipline et confiance en leurs capacités. Il les a également invités à éviter toute forme de fraude et à compter uniquement sur les connaissances acquises au cours de leur parcours scolaire.
Ces examens constituent un moment difficile de votre parcours scolaire et votre avenir en dépend. Abordez-les avec calme, discipline, confiance et détermination.
Ces épreuves se déroulent pendant 4 jours sur les différents centres d'examen de la province éducationnelle du Kwilu 1.
Mais en drame marqué ce premier jour d'examen hier lundi à Bantundouville, une candidate finaliste du lycée Maria Goretti est décédée hier à la suite d'un malaise alors qu'elle participait aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Selon plusieurs témoins présents au centre de passation, la jeune élève a perdu connaissance au cours des épreuves avant d'être rapidement évacuée vers l'hôpital général de référence de Bantundou pour une prise en charge médicale. Malheureusement, son décès a été constaté peu après son admission. D'après des informations recueillies auprès de ses proches, la candidate présentait déjà des problèmes de santé depuis la semaine passée. Son état se serait aggravé le jour de l'examen. À ce stade, les circonstances exactes du décès n'ont pas encore été officiellement communiquées par les autorités compétentes. Avant de fermer cette page sur l'examen d'État, rendons-nous à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Estant à la fin a attendu son micro à quelques finalistes hier à la sortie des centres d'examen. Après ce premier jour d'épreuve, plusieurs se sont dit satisfaits du déroulement de l'examen et de la manière dont les questions ont été formulées. Beaucoup affirment avoir abordé cette première étape avec confiance et espèrent une réussite à la hauteur de leurs efforts. Suivant.
J'ai bien répondu, en vrai dire. Il n'y avait pas beaucoup de questions, c'était tout simplement 5 questions. Des cultures générales, en fait. Là, donc, j'ai retenu la 3e question qui disait l'endroit où on peut élever l'enfant. C'était les choix multiples pour choisir. Donc, il y avait 4 sections. Il y avait l'école, à la maison, ou soit à l'hôpital, à la prison. J'ai répondu, là on élève l'enfant, c'est à la maison. J'avais des notions sur ça parce que je faisais des recherches beaucoup.
Toutes les questions étaient faciles. Bon, la première question était les cadres favorables à la réduction du citoyen en conflit répété avec la loi et la première question, moi j'ai répondu. Bon, à travers la question et les réponses qu'on avait données, là que j'ai choisi la bonne réponse.
Je me suis bien préparé pour enfronter les examens d'État et d'autres jours là. Je suis prêt à faire tout. On a fait des exercices avec les enseignants dans notre école. C'est pourquoi je suis capable d'affronter tout.
Nous rentrons en Ituri. 2 cas confirmés d'Ebola ont été signalés au site déplacé de Kigonze à Bunia. Cette confirmation intervient après une série de décès enregistrés ces derniers jours dans ce camp qui accueille plus de 17 000 personnes. Selon les responsables du site, 6 autres déplacés sont décédés depuis samedi, certains présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie à virus Ebola. Des prélèvements ont été effectués, les résultats sont attendus. Pendant ce temps, l'équipe de riposte renforce les mesures pour contenir la propagation de l'épidémie. Isaac Raymond.
2 cas confirmés d'Ebola figurent parmi la dizaine de décès enregistrés les 16 et 17 juin dernier au site des déplacés de Kigonze situé dans les quartiers Muzipela Bunia. Depuis cette date, des décès sont signalés presque quotidiennement dans ces camps. Ce lundi matin, une personne est décédée et son corps transféré à l'OPA. Dimanche, 3 autres déplacés ont perdu la vie, tandis que 2 décès avaient déjà été enregistrés samedi. Selon les gestionnaires du site, au moins 30 déplacés sont morts depuis le mois de mai d'une maladie non encore identifiée. Les malades présentaient notamment des symptômes compatibles avec Ebola, tels que les vomissements et les diarrhées. Des échantillons ont été prélevés par l'équipe des ripostes et les analyses se poursuivent pour confirmer ou écarter d'autres cas. Face à cette situation préoccupante, les équipes sanitaires s'emploient à identifier les personnes ayant été en contact avec les malades afin de rompre la chaîne de transmission. Elles organisent également des séances de formation à l'intention des relais communautaires chargés de sensibiliser les déplacés. Cependant, une partie de la population continue de douter de l'existence de la maladie et ne respecte pas toujours les mesures de prévention, notamment en manipulant les corps des victimes. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, la commission électorale a confirmé hier la tenue des élections le 22 décembre. Initialement prévues en 2022, elles ont été reportées en 2024, puis à cette année. Mais à 6 mois du scrutin, la commission électorale fait face à de nombreux défis pouvant provoquer un nouveau glissement du calendrier. Nous demandons au gouvernement d'accélérer la modification des lacunes juridiques existantes et de répondre à tous nos besoins fondamentaux dans les plus brefs délais au cours des prochains mois. C'est ce qu'a déclaré Abednego Akok, président de la commission électorale du Sud-Soudan hier.
L'invité.
La conférence épiscopale nationale du Congo Sanko s'oppose à toute modification des textes fondamentaux, qualifiant le projet de référendum de prélude à la balkanisation du pays. Dans un communiqué publié à Kinshasa samedi dernier, à l'issue d'une assemblée plénière extraordinaire, les évêques catholiques ont dénoncé la montée des tensions autour d'un éventuel projet de modification de la constitution. Les intervenants dans Dialogue entre Congolais d'hier ont débattu autour de cette position. Je vous propose de les écouter au micro de Donna Madimba.
Christian Moleka, et ce sera votre dernier mot, vous avez parlé d'un débat sincère sur cette constitution, changement ou modification. Pour qu'il soit sincère, selon vous, il faut qu'il soit en dehors d'un mandat présidentiel ou il peut se faire dans un mandat.
Le président aurait par exemple gagné en 2023 d'inscrire dans son discours de campagne le changement constitutionnel. Il serait venu à ce débat avec beaucoup plus de légitimité en disant voilà, le peuple m'a donné ce mandat avec mission de le changer. Le fait que cette question n'a pas été ramenée à cette échelle politique, eh bien, apparaît comme une forme de cadre qu'on sort de la poche au dernier moment pour se maintenir au pouvoir. Ou alors au modèle béninois où on changerait les textes en disant voilà, mais ce texte ne s'appliquera pas à un black talk qui le met en œuvre et donc nous donnons à la nation, à la postérité un texte mais qui ne nous concerne pas nous. Ces genres de débats, chez nous on l'a pas. On a des débats qui malheureusement tournent autour des individus. Et les débats malheureusement c'est est-ce qu'on le maintient lui ou non. Et puisque le débat c'est on le maintient lui ou non et qu'il ne s'agit pas d'un système politique à mettre en œuvre, eh bien la polarité restera la personne de Tshisekedi qui doit se maintenir ou non au pouvoir. Malheureusement ça le débat chez nous.
Merci Christian Moleka. Ami Simakoutano, député national et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes élu de Kinshasa. Vous, en tant que UDPS et en tant que majorité, vous conseillerez au président de continuer dans cette optique de changement de la constitution.
On conseillerait au président de la République qu'il est d'abord un, les garants de la nation. Et quand on parle de la nation, c'est l'ensemble de la population congolaise, n'est-ce pas? Cette question ne réside pas à lui seul. C'est une question qui concerne le peuple congolais. Et lui étant garant de la nation, il doit poser la question à la population pour savoir le pour et le contre. La population se trouve de quel côté?
Et ça sera fait dans le référendum, c'est ça?
J'ai dit si c'est ça la voie, donc ça se fera ainsi. Donc c'est la population qui tranchera. Ce n'est pas un groupe d'individus ou merci. Des gens qui croient avoir une parole d'évangile où tout le monde doit dire amen.
Merci.
Mais c'est la population qui doit répondre à cette question pour confirmer la thèse de l'un ou de l'autre.
Merci, Amissi Makutano. Monseigneur de l'Ancien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, vous recommandez dans votre message un dialogue comme solution. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que votre proposition peut aboutir à quelque chose?
Oui, avant de répondre, permettez-moi brièvement de corriger quelques faussetés liées à la manipulation. J'ai entendu dire l'honorable que la CENCO a fait barrage à la constitution de 2006. C'est faux. Il est vrai que le comité permanent des évêques a sorti un message 3 semaines après la promulgation de la constitution de 2006, février, c'était au début mars, où il y avait 3 articles. L'article 7 qui félicitait les Congolais, qui saluait la maturité des Congolais, qui sont allés massivement, qui ont démontré qu'ils sont capables de prendre en main la vie de leur pays. La CENCO a demandé au Parlement d'amender les articles qui posaient problème. La CENCO n'a jamais été contre la révision. Et puis, en se disant, la CENCO a dit clairement que c'est dans le respect des articles 218, 219, 220. Donc c'est vraiment une fausseté. Deux, quand on parle de la population, il s'agit de quelle population? La population fantôme. Il n'apparaît que pendant les élections, la population capable de voter à 1000 dans une chambre ou dans la forêt avec une machine à voter. Donc pour le dialogue, pacte social, on a bien construit avec le chef de l'État. Il nous a demandé de travailler ensemble avec la présidence. Nous sommes arrivés à adopter une feuille de route. On avait aussi intégré les autres confessions religieuses. C'est la présidence qui nous a demandé de communiquer sur cet ordre de la feuille de route-là. Maintenant, c'est question de cohérence que le président donne le go. C'est ce qu'on a entendu jusque-là, c'est tout.
Vous pouvez retrouver ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Et c'est la fin de ce journal préparé par Jude Mista Bilanda, mis en onde par Alain Goy. Merci à vous qui nous avez suivis. Passez une excellente journée.